Stéphane Teria, député du Centre, pose la première question orale.
Le gouvernement jurassien a octroyé un renchérissement sur salaire équivalent à celui des employés de l'État. Sans remettre en question le rôle des soins à domicile et l'importance de son personnel soignant, le gouvernement peut-il nous expliquer cette décision en cours d'année, non prévue au budget de l'État, et surtout, et j'insiste sur le surtout, sachant que cette fondation est de droit privé. Par avance, je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Jacques Gerber.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, monsieur le député, le gouvernement n'a pas décidé d'accorder le renchérissement à la phase. Le gouvernement a pris la décision d'adapter les montants reconnus pour le financement des soins, que ce soit pour les soins à domicile, les EMS ou les UVP, à partir du 1er juin 2023. Donc, pas seulement pour la phase. Pourquoi au 1er juin? Car le budget, aucune demande n'avait été faite avant la décision du budget 2022. Les demandes sont venues dans le courant de mars. Et la diminution du nombre de lits dans les institutions nous permet aujourd'hui, pour les 6 mois à venir, justement, de modifier les tarifs. Mais ce sont bien sûr les partenaires sociaux qui devront aujourd'hui discuter du niveau de renchérissement dans chacune des différentes institutions, notamment la phase.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député, Stéphane Teria est satisfait. Pour la deuxième question orale, je passe la parole à madame la députée Gaëlle Frossard.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, nous avons récemment appris une nomination par le gouvernement jurassien au conseil d'administration de l'hôpital du Jura. Madame Anne-Françoise Loup pourra, à n'en pas douter, apporter son expertise en matière de formation dans le domaine de la santé, ce qui est bénéfique pour l'hôpital du Jura. Le conseil d'administration de l'hôpital cantonal, respectivement sa nomination, est régi par la loi sur les établissements hospitaliers qui prévoit un certain nombre de principes quant à sa composition. Parmi ceux-ci, le gouvernement doit veiller à une représentation adéquate des usagers et du personnel. D'où ma question. Le gouvernement peut-il nous indiquer les personnes du conseil d'administration de l'hôpital du Jura qui représentent les usagers et ou le personnel de l'établissement? D'avance, nous remercions le gouvernement de sa réponse.
Merci, madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Jacques Gerber.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, alors effectivement, vous avez raison, madame la députée. Le gouvernement a nommé madame Anne-Françoise Loup au conseil d'administration de l'hôpital, effectivement, comme représentante du personnel. Et elle s'occupera de la formation initiale dans les soins. Elle-même a une formation initiale dans les soins, excusez-moi. Madame Loup s'engage pour le personnel soignant. Elle collabore activement avec le service de la santé pour la mise en place, notamment de l'initiative des soins infirmiers. C'est une personne clé pour favoriser justement la relève du personnel soignant. On est 100% certain qu'elle saura défendre les intérêts au sein du conseil de l'administration de l'hôpital du Jura du personnel. Les syndicats ont du reste été informés avant sa nomination, ne se sont pas opposés à cette dernière, sachant que cette dernière est du ressort du gouvernement jurassien. Puis je ne sais pas si ça peut vous faire plaisir, mais vous savez que Madame Loup a été et toujours membre du Parti socialiste neuchâtelois, donc je lui fais confiance pour défendre correctement le personnel également de l'hôpital du Jura.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, madame la députée? Madame la députée Gaëlle Frossard est partiellement satisfaite. Pour la troisième question orale, je passe la parole à monsieur le député Rémi Meury.
Madame la présidente, mesdames et messieurs, les annonces d'achat puis de destruction des vaccins anti-Covid se succèdent continuellement. À chaque fois, ce sont des centaines de millions qui sont gaspillés. Parallèlement, constatant que les coûts de la santé sont en perpétuelle augmentation et que les primes de caisse maladie explosent année après année, le gouvernement peut-il rappeler de quelle manière sont financées ces doses de vaccins qui enrichissent l'industrie pharmaceutique mais qui sont détruites régulièrement?
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Jacques Gerber.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, monsieur le député, bien volontiers que je réponds sur la manière dont les vaccins sont financés. Tout de suite, je rassure, ils ne sont pas financés par le canton ni par les caisses maladies, mais par la Confédération. Donc, il est vrai que ces vaccins ont été commandés en nombre dans des conditions dont on sait à l'époque qu'elles étaient extrêmement difficiles. La Confédération a toujours mis à réserver des quotas pour chaque canton. Le canton du Jura a toujours commandé uniquement le nombre de vaccins dont il avait nécessaire, dont il avait nécessité, car nous n'avions pas les possibilités d'en stocker énormément au niveau cantonal. Donc nous ne savons pas exactement le solde de la part cantonale jurassienne, ce qu'il en est devenu. Par contre, nous n'avons pas de charges spécifiques, que ce soit au compte de l'État ou au niveau des caisses maladies. L'impact donc sur ces dernières est très faible, si ce n'est aujourd'hui les personnes qui ont besoin de vaccins qui passent, comme je dirais, dans la normalité des vaccins à travers leur médecin de famille qui fait une ordonnance et ensuite qui peut bénéficier de vaccins et qui est pris en charge par les caisses maladies. On retourne dans un système normal au niveau des vaccins.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député, Rémi Meury est satisfait. Pour la quatrième question orale, je passe la parole à monsieur le député Raoul Yegui.
Madame la présidente, mesdames, messieurs, suite à la dégradation importante de l'horaire en Suisse romande et à l'augmentation des changements de train annoncés par les CFF pour 2025, qui pénalise fortement l'attractivité du Jura, le gouvernement envisage-t-il de réagir auprès de la Confédération pour faire entendre sa voix ou, pour le moins, pour demander des compensations sur d'autres lignes ou financières ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Jacques Gerber.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, le gouvernement est déjà intervenu très fortement avec d'autres cantons. L'ensemble des cantons romands se sont opposés à la proposition, à la première mouture en mars 22 de l'horaire des CFF avec un bras de fer relativement musclé. Depuis une année, ces derniers négocient avec les CFF, également accompagnés de la Confédération, pour aboutir quelque part au compromis qui a été communiqué ces dernières semaines. Alors oui, cet horaire n'est pas réjouissant. Il n'est pas réjouissant pour l'ensemble de la Suisse romande. Il n'est pas réjouissant également pour le canton du Jura. Il augmente les temps de parcours, oblige à changer de train le plus souvent. Par contre, il est un peu exagéré de parler de catastrophe absolue. Il faut quand même relever que pour la clientèle jurassienne, les trains régionaux, que ce soit les trains, les bus, ne sont pas touchés, ce qui n'est pas le cas pour d'autres cantons. Nous obtenons une cadence à 30 minutes pour Lausanne, également pour Genève, mais effectivement avec certaines contraintes supplémentaires. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que si aucune solution n'était trouvée, certes, nous aurions pu peut-être maintenir certains horaires, mais sans garantie de connexion dans les différentes gares, notamment à Bienne, ce que l'horaire actuel permet. Et je crois que ce que nous devons condamner, ce n'est pas tellement le processus actuel, c'est les 10 dernières années où la Confédération n'a pas suffisamment investi en Suisse romande pour l'ensemble des transports publics. C'est là le nœud de ce problème. Aujourd'hui, malheureusement, on doit faire avec ces contraintes supplémentaires. Un groupe de travail est encore en place entre les CFF, la Confédération et les cantons pour justement voir si d'autres compensations peuvent être obtenues. Les négociations sont en cours, donc le canton du Jura va continuer, bien sûr, de défendre ardemment et fortement ses intérêts dans ce dossier.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député, Raoul Yegui est satisfait. Pour la cinquième question orale, je passe la parole à monsieur le député Yves Gigon.
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Ministres, chers collègues, dernièrement, les parents d'élèves de troisième année primaire ont été informés que certaines communautés étrangères, notamment par l'intermédiaire des ambassades, consulats ou associations, organisent des cours de langue et de culture d'origine, et cela avec le soutien du département de la formation. Et on parle ici de langue et de culture, notamment, je cite, albanaise, arabe, russe ou encore tamoul. Il me paraît aberrant que le canton du Jura soutienne une telle démarche, qui ne peut que favoriser le communautarisme et rendre plus difficile une saine intégration. Ce n'est selon moi pas à l'État, mais aux familles de ces différentes communautés de prendre en charge ces cours. Ma question au gouvernement est la suivante. Est-ce véritablement à l'État jurassien de soutenir, comme il le fait, une telle action ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Martial Courtais.
Oui, merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Ce n'est pas que le département de la formation qui soutient cela, monsieur le député, puisque, en fait, en reprenant la loi scolaire, qui est donc dans les prérogatives du Parlement, on peut lire ça à l'article 4, permettez que je le cite. Le service de l'enseignement collabore avec les autorités scolaires étrangères qui organisent des cours de langue et de culture pour leurs ressortissants résidant dans le canton. Et l'article suivant, l'article 5, dit ceci, « L'école favorise l'insertion des enfants migrants tout en respectant l'identité culturelle. » Donc ici, nous respectons donc la loi. Pour vous rassurer cependant par rapport au financement, effectivement, cette question est pertinente. Donc sachez que ce sont les communautés, les ambassades et les consulats qui organisent ces cours et qui les financent intégralement. Donc aucun coût pour l'État. Finalement, l'État délivre une autorisation pour dispenser ces cours. Bien sûr, c'est au niveau de la qualité de l'enseignement qu'il y a cette autorisation. Précisons encore que le service de l'enseignement transmet les informations aux écoles pour les élèves intéressés, comme vous le signalez par rapport à ce courrier. On peut encore terminer, pour être complet, en disant que les cours ont totalement lieu hors du temps scolaire.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Yves Gigon est partiellement satisfait. Pour la sixième question orale, je passe la parole à monsieur le député Serge Beret.
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, un parcours de formation pour les responsables d'équipe de l'administration cantonale a été récemment créé. Le délai d'inscription pour la première volée échoit aujourd'hui 31 mai. Ce parcours nécessite un investissement important. Les frais des intervenants externes et le temps consacré par les participants à la dizaine de jours prévus notamment. Les thèmes abordés sont par exemple la connaissance de soi, la communication, l'organisation personnelle. Le gouvernement a décidé de rendre cette formation obligatoire pour les chefs de service adjoints, délégués, responsables de service, dont les agendas sont déjà très chargés. Question, quelles retombées le gouvernement attend-il de ce projet ?
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à madame la ministre Rosalie Berecis.
Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Oui, comme vous le relevez, monsieur le député, la formation continue est un des piliers importants de la politique de ressources humaines du canton. Vous savez certainement que depuis plusieurs années, elle était organisée, cette formation continue, autour d'un catalogue de formation, je dirais généraliste, qui propose effectivement différents types de formations que les collaboratrices et collaborateurs peuvent bien évidemment compléter avec des formations métiers, notamment données par des partenaires. Or, le monde professionnel évolue aujourd'hui de manière très rapide. Cela exige, nécessite de pouvoir acquérir de nouvelles compétences qui sont et donc dans ce contexte-là, il est indispensable de pouvoir donner des outils à nos collaboratrices, à nos collaborateurs pour faire face donc à ce monde dans une évolution constante. Dans ce contexte-là, il tient à cœur au gouvernement de pouvoir accompagner ses collaboratrices et collaborateurs dans l'acquisition de ces nouvelles compétences, également pour pouvoir faire face aux changements qui s'opèrent sur le monde professionnel. Et puis, le gouvernement a souhaité développer différents parcours qui sont développés de manière cohérente, complémentaire, sur un cycle un petit peu plus long. Le premier que vous mentionnez concerne les responsables d'équipe, mais d'autres parcours devront pouvoir être organisé dans les prochains mois, dans les prochaines années. Les objectifs concrets de ce parcours est tout d'abord de pouvoir développer une culture d'entreprise commune, également de donner aux responsables d'équipe de nouveaux outils pour le management, et puis enfin, comme je vous l'ai mentionné, pouvoir faire face aux différents changements qui s'opèrent aujourd'hui dans le monde du travail. Cette formation a d'ores et déjà été présentée en conférence des chefs de service. Elle a reçu un bon accueil. On ne peut qu'espérer qu'elle puisse avoir du succès auprès des responsables d'équipe et répondre à leurs attentes. Je vous remercie.
Merci, Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Serge Verret est satisfait. Pour la septième et dernière question orale, je passe la parole à Monsieur le député Romain Cher.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, profitant du lundi de congé et d'ensoleillé, j'ai réussi à emmener mes deux adolescents à la brocante de Porrentruy pour y dénicher des arrosoirs, choux blancs. Alors j'opte pour la visite du jardin botanique et ses fameux iris. Plein dans le mille, les iris sont en fleurs, même mieux que dans mon long jardin. Pour boucler la ronde, je souhaite raviver les neurones, les miens bien évidemment, en observant le pendule de Foucault à la sortie du jardin botanique. Là, mon cœur de droite se met à palpiter à gauche et mon sang ne fait qu'un tour. La boule ne bouge plus. Et le panneau didactique ressemble plus à une feuille blanche, voire grisâtre. Aucune explication n'est affichée du pourquoi du comment. Ma question, quand relance-t-on la boule ? Il s'agit ici de l'image de la précision et du savoir-faire dans une ville culturelle. Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député, pour la réponse du gouvernement. Je passe la parole à monsieur le ministre Martial Courtais.
Merci beaucoup, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Effectivement, merci beaucoup, monsieur le député, de nous faire part de votre magnifique lundi de Pentecôte. Ceci étant dit, c'est vrai que sur cet aspect, ça a été sciemment arrêté en vue des économies d'énergie, parce que, peut-être étonnamment, mais ce pendule de Foucault consomme passablement d'énergie, donc ça a été arrêté à l'automne 22, et il est prévu qu'il soit relancé en vue de la saison touristique estivale à mi-juin.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député, Romain Cher est partiellement satisfait.